Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Selon moi, le recours au texte philosophique, le recours à l'abstraction, n'a pas pour but de nous éloigner du contact avec la matérialité des œuvres, mais au contraire, de nous rendre plus attentifs à cette matérialité. Je prendrai dans cette chronique un exemple très très célèbre, la séquence d'ouverture d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Alors, petite parenthèse personnelle, je me permets, chers auditeurs, vous me pardonnerez. Il était une fois dans l'Ouest, c'est mon film culte et c'est un film qui a marqué mon enfance. Je l'ai vu à 9 ans en salle, j'ai eu cette chance, il était ressorti à Marseille. Et notamment cette scène, cette séquence d'ouverture, elle a complètement changé ma vision du monde et du cinéma. Et j'ai toujours gardé une affection particulière à la fois pour le film Il était une fois dans l'Ouest dans son entier et notamment pour cette séquence. Fin de la parenthèse personnelle. Cette séquence, donc assez mystérieuse, elle a été l'objet de nombreuses interprétations. Alors pour Sergio Leone lui-même, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de voir ce que dit l'auteur. Hein. Pour Sergio Leone, il s'agissait de symboliser la fin d'une époque, la fin de l'Ouest farouche et le début d'autre chose. D'ailleurs, ce film, Il était une fois dans l'Ouest, se situe dans sa carrière à un moment charnière, puisqu'en fait, il fait suite à ce qu'on a appelé la trilogie du dollar. Donc, et pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Et puis, elle va ouvrir la trilogie d'Il était une fois. Il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, il était une fois en Amérique. Et donc, pour Sergio Leone, vraiment, cette séquence-là, c'est la charnière entre deux époques de son travail. C'est l'idée qu'on va tuer les cow-boys à l'ancienne, les tueurs sans foi ni loi, etc. Et on va montrer autre chose, une autre époque de l'histoire de l'Amérique. Et Il était une fois dans l'Ouest, c'est sur cette tradition. D'ailleurs, petite anecdote, mais quand même intéressante, Sergio Leone voulait que les trois bandits qui attendent à la gare au début d'Il était une fois dans l'Ouest, et qui donc vont être tués assez rapidement, soient interprétés justement par Eli Wallach, Lee Van Cleef et Clint Eastwood, Le Bon, la Brute et le Truand, pour montrer qu'on tuait le film précédent et on passait à autre chose. Mais Clint Eastwood avait refusé parce que pour des raisons de carrière, il trouvait que faire un rôle qui durait 5 minutes et où il était tué dès le début, c'était pas très, très glorieux. Bon, on peut le regretter peut-être, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, bon, au-delà de ce que dit Sergio Leone, je voudrais mettre en perspective donc ces 10 premières minutes du film avec des textes philosophiques qui ont été réunis par Gérard Genette dans un essai qui s'appelle « Esthétique et poétique » qui a été publié au Seuil en 1992. Premier axe de réflexion, un article de Kendall Walton. Déjà, j'aime bien parce que ce philosophe, je trouve qu'il a un nom de cow-boy quasiment. Kendall Walton qui écrit donc un article qui s'appelle « Catégorie de l'art » en 1991. Et la question qu'il pose, c'est dans quelle catégorie doit-on percevoir une œuvre d'art ? Par exemple, catégorie, ça peut être le western pour nous, hein, en l'occurrence. Et Walton fait l'hypothèse qu'une œuvre est d'autant plus riche qu'elle peut être perçue dans différentes catégories. Donc, selon lui toujours, il est important de connaître les intentions de l'artiste, bien sûr. Il est important aussi de connaître les catégories qui sont en vigueur dans la société dans laquelle vivait l'artiste. Mais on peut aussi, enfin, me semble-t-il, confronter une œuvre à des catégories plus lointaines, à des catégories qui, a priori, ne relèvent pas de l'intention première de l'artiste. Donc je voudrais rapprocher cette séquence d'ouverture d'Il était une fois dans l'Ouest de la peinture de vanité. Peinture des vanités, bon, vous le savez sans doute, mais je vais quand même le rappeler rapidement. C'est donc un genre pictural qui a existé surtout au XVIe et au XVIIe siècle et qui avait pour but de faire méditer l'homme sur la brièveté de la vie, la vanité des plaisirs, et donc c'est une peinture essentiellement symbolique où on va avoir des crânes, des fleurs fanées, des bulles de savon qui vont symboliser aussi le caractère éphémère, des partitions de musique parfois abîmées pour montrer la corruption des choses, bon, etc. Symbole donc du sablier aussi, etc. Symbole du caractère éphémère du temps. Alors, la séquence d'ouverture du film, d'abord, elle est dominée, comme la peinture de vanité, par la mort. Puisque, bon, c'est pas un scoop, hein, les trois bad boys vont être tués très rapidement. Et ce qui est intéressant, alors, là aussi, on voit le pouvoir heuristique, peut-être, de ce décalage, le fait de percevoir le début d'un western comme une vanité, c'est que chacun des trois bad boys est associé à un son. Un son qui résonne symboliquement par rapport à la peinture de vanité. Je m'explique. La goutte d'eau d'abord. Le premier son qui apparaît, c'est une goutte d'eau qui tombe sur le crâne, puis sur le Stetson de Woody Strode, l'acteur noir qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de westerns. Alors cette goutte d'eau qui tombe et qui va rythmer donc le son du film, ça évoque les clepsydres. Les clepsydres, c'est comme les sabliers dans l'Antiquité, des appareils avec lesquels on va mesurer le temps qui passe et où on va aussi donc prendre conscience du caractère inéluctable de sa fuite du temps. Donc Woody Strode, c'est la goutte d'eau. Deuxième son qui apparaît, mais vraiment 30 secondes après, le craquement de doigts d'Al Mulock, donc l'acteur qui fait craquer ses doigts. Et là, ben, les doigts qui craquent, et finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le squelette qui se fait entendre, c'est le son de notre squelette, les doigts qui craquent. Et comme je l'ai dit, dans les vanités, il y a souvent des os humains et surtout des crânes. Donc là, on entend après avoir entendu le son de l'eau, on entend le son des os, si j'ose m'exprimer ainsi. Troisième son, connu lui aussi, la mouche. Il y a une mouche qui vient perturber la sieste de Jack et Lam, là, tranquillement sur sa chaise. Alors la mouche, bien sûr, c'est un symbole aussi très classique de la peinture de vanité, puisque la mouche qu'on trouve sur les cadavres, c'est un memento mori, et ça, elle nous rappelle la corruption de toute chose. Donc, c'est assez intéressant, parce que finalement, si on perçoit le début du film comme une vanité, on ne voit plus exactement la même chose, et on ne perçoit plus le film pareil. Et d'ailleurs, des éléments quand même du film plus loin vont confirmer cette lecture. Je cite simplement deux choses pour ne pas être trop long. D'abord, la récurrence de la poussière, parce qu'il y a beaucoup de poussière dans Il était une fois dans l'Ouest, puis il y a même des caches poussières, on le sait. Mais la poussière, ça renvoie directement à Coëlette, le texte de la Bible, en français l'Ecclésiaste. Il dit « Vanité des vanités, tout est vanité, poursuit devant », et avec cette idée que l'homme est poussière et retournera à la poussière. Autre chose, dans la peinture de vanité, il y a très souvent des miroirs ou des miroirs brisés, parce que le miroir, c'est justement à la fois ce qui nous renvoie la chose la plus vaine, notre propre image, notre propre beauté. Et puis c'est aussi ce qui nous renvoie les rides qui avancent, les cheveux blancs, etc. Et il y a beaucoup de miroirs dans Il était une fois dans l'Ouest. Et un des miroirs les plus subtils, qui n'est pas directement un miroir, c'est la flaque d'eau dans laquelle va mourir l'ambitieux homme d'affaires qui rêvait d'aller jusqu'à l'océan et de conduire le train jusqu'à l'océan. Et en fait, il va mourir lamentablement dans une flaque d'eau. Et au moment où il meurt, on entend le bruit de l'océan. C'est un plan assez intéressant qui nous renvoie justement à la vanité de cette volonté de conquérir le monde. Donc, première hypothèse, le début d'Il était une fois dans l'Ouest ne serait pas seulement, comme l'a dit Sergio Leone, le symbole de la fin d'une époque et le début d'une autre époque de sa filmographie, mais aussi serait une immense vanité. Mais lisons un autre article, toujours du même recueil, esthétique et poétique, qui va nous permettre une autre grille de lecture. Article de Nelson Goodman, 1977, très connu, « Quand y a-t-il art ?» Quand y a-t-il art ? Une variation sur la question « qu'est-ce que l'art ?» finalement. Hein. Alors ici, ce qui va nous intéresser par rapport à l'article et par rapport au film, c'est de réfléchir sur la frontière peu évidente qui existe entre, d'un côté, le bruit et de l'autre, la musique. Pourquoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Il était une fois dans l'Ouest, c'est le quatrième western que réalisent ensemble Sergio Leone et Ennio Morricone. Donc les gens connaissent le duo. ils vont voir ce film, et ils s'attendent à écouter de la musique. Hein, la musique, on sait qu'elle est hyper présente dans ces westerns du couple Leon-Morricone. Or, pendant les 10 premières minutes, il n'y a pas de musique. Pendant le très long générique, pas de musique. Enfin, du moins pas de musique en apparence. Il n'y a pas de violon, il n'y a pas de trompette. Mais peut-être qu'il y a de la musique dont on ne se rend pas compte. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que les sons eux-mêmes du film, les sons qu'on appelle en analyse de film, les sons diégétiques, c'est-à-dire voilà, les doigts qui craquent, l'eau qui tombe, donc les sons du film lui-même et non pas la musique. La musique en général, au cinéma, dans le western en tout cas, elle est extra-diégétique. Elle vient d'ailleurs, elle est pas, les personnages ils n'entendent pas, il n'y a que le spectateur qui l'entend. Eh bien, les sons diégétiques dans cette séquence, les bruits, donc, vont former un univers qui peut être perçu comme une musique. Comme si le duo Sergio Leone et Ennio Morricone, en fait, nous incitait à être attentifs à la musique du monde, tout simplement. Alors, premier son, dans le film, une porte qui grince. Une craie qui grince aussi. Alors déjà, il y a cet écho entre les deux grincements qui peut déjà constituer un thème musical. Et puis surtout, apparaît le fond sur lequel en fait tous les motifs vont jouer. Le fond, c'est le bruit de l'éolienne. L'éolienne, on l'entend bien avant le moment où on va la voir. On la voit qu'au bout de 3 minutes et on l'entend dès le départ. Hein. Et l'éolienne, alors ça c'est intéressant, j'ai déchiffré pour voir ça avec ma guitare à vrai dire. Elle joue deux mélodies différentes, l'éolienne. Hein. Elle joue sol mi bémol et si bémol sol mi bémol. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ben c'est l'accord majeur de mi bémol. Alors vous allez dire bon, on s'en fout, qu'est-ce que c'est cette histoire, une éolienne qui joue en mi bémol? Alors peut-être pas tant que ça, parce que la tonalité de mi bémol, c'est une tonalité extrêmement symbolique. C'est notamment la tonalité que Mozart avait choisie pour l'ouverture de la flûte enchantée, mais pour des raisons très précises, hein. Mais bon, passons. En tout cas, on est dans une tonalité majeure, ça c'est sûr, hein. Voilà, de accord majeur, arpège majeur. Ensuite, il va y avoir les onomatopées aussi. Hein, et donc, Almeloc, par exemple, il va imiter le bruit de l'oiseau. Le télégraphe, alors il y a le bruit du télégraphe aussi qui va être un contrepoint au son de l'éolienne. Donc, tout ça apparaît finalement très composé si on voit ça comme un morceau de musique. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la goutte d'eau, puis la mouche et les craquements de doigts. Alors, la musicalité des sons, elle apparaît aussi, par exemple, parce que c'est au moment où l'acteur fait craquer ses doigts que l'intertitre « Musique composée et dirigée par Ennio Morricone » apparaît à l'écran. Donc là, il y a peut-être un petit indice pour dire « Attention, peut-être que ce qu'on entend là, c'est déjà de la musique. » Autre petit clin d'œil aussi, Jack Elam, qui est importuné par la mouche, je ne sais pas si vous vous rappelez, il attrape dans le canon de son arme, il la bloque dans le canon et puis il l'écoute comme on écouterait de la musique. Il la met à côté de son visage, il sourit, il est content d'entendre la musique de la mouche. Ensuite, bon, il y a le son du train, il y a le son des armes, il y a le son de la cloche. Le train, c'est le son du train, on dirait un énorme cœur qui bat. Et puis enfin, surtout, alors là c'est assez intéressant aussi, c'est assez subtil de la part de notre duo, hein, Leone Morricone, on entend les premières notes d'harmonica. Vous savez que l'harmonica a une place centrale dans ce film. Et d'ailleurs, au début, quand on entend l'harmonica, on ne sait pas si l'harmonica est extra-diégétique, c'est-à-dire si c'est un son qui a été rajouté au montage et que les personnages n'entendent pas, ou bien si c'est un son diégétique, si c'est vraiment de quelqu'un qui joue l'harmonica dans le film. Alors on se rend compte que oui, on joue vraiment dans le film parce que le son stoppe les trois bad boys qui repartaient, ils entendent cette musique, ils se retournent, et ce qui est intéressant, c'est que les notes là de l'harmonica, elles sont en tonalité mineur cette fois-ci, hein. C'est fa, do dièse, mi fa, et donc la tonalité mineure de l'harmonica répond à l'arpège majeur de l'éolienne comme un changement de tonalité du film en fait, hein, puisque là le drame va pouvoir commencer, on s'installe dans le drame, on s'installe donc dans la tonalité mineure. Donc pour conclure ou presque, pour récapituler en tout cas, cette séquence d'ouverture, c'est à la fois un début de western, certes, mais c'est aussi une vanité, et c'est aussi peut-être un concert de musique bruitiste. Et cette dernière hypothèse, elle va quand même être confirmée par quelque chose, c'est ce que Ennio Morricone a déclaré lui-même sur cette ouverture du film. Je le cite. « Quelque temps plus tôt, j'avais assisté à Florence à un concert où un homme arrivait sur scène et commençait à faire grincer une échelle dans un silence complet. Cela a duré plusieurs minutes. Dans le silence, le grincement de l'échelle a pris une autre dimension, l'argument philosophique de cette expérience étant qu'un son, n'importe lequel, isolé de son contexte dans le plus total silence, devient quelque chose de totalement différent de ce qu'il est en réalité. » Fin de citation. Donc, ça peut être intéressant quand on analyse un film quand même d'avoir, de se référer comme ça à des documents externes, en l'occurrence, bon, citation d'Ennio Morricone, qui nous confirme que l'hypothèse selon laquelle le début du film est un concert de musique brutiste n'est pas absurde. Mais Sergio Leone nous l'indique lui-même de manière un peu ironique et un petit peu ludique, comme il le fait souvent. Il y a une autre scène où il y a de la musique expérimentale, de la musique assez étrange, c'est la scène où l'homme à l'harmonica va sauver la vie de Frank, pour mieux le tuer par la suite, bien sûr. Hein. Et là, il y a d'étranges jeux d'écho, en fait, entre les sons diégétiques, le vent, porte qui claque, chevaux qui galopent, et puis les sons extra-diégétiques qui sont essentiellement des percussions. Et au cas où le spectateur n'aurait pas bien compris, le personnage Jill McBain, donc la femme interprétée par Claudia Cardinale, qui est dans son bain, dit à l'homme à l'harmonica, elle dit « Je jurerais qu'on va entendre un son étrange ». Et lui dit « Juste maintenant », et là la fusillade commence. Hein. Donc voilà, le son étrange là, c'est un discours à la fois d'un personnage sur ce qui va se passer, mais c'est aussi un discours méta-réflexif, je dirais, du personnage sur ce qu'est le film lui-même. Voilà, la prochaine chronique, donc ce sera la 10e. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que toutes les chroniques peuvent être bien sûr écoutées sur le site de Radio Grenouille. La prochaine chronique, eh bien, on ne quittera pas l'univers de Sergio Leone, mais on essaiera de lui apporter un éclairage très différent en nous référant à un livre de Denis de Casabianca qui s'appelle « Pourquoi paresser ?»
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.grenouille888.org.